Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Le thème de cet épisode, être un DJ producteur en 2021. La crise du Covid a considérablement affecté le secteur de l'événementiel et de l'industrie musicale dans sa quasi-globalité. Les DJ ont été contraints d'annuler la plupart de leurs dates. Leur cachet étant souvent leur principale source de revenus, ils ont économiquement subi la crise de plein fouet. Alors comment aujourd'hui subvenir à ses besoins lorsque l'on est dans cette profession ? Pour en parler, nous accueillerons le DJ producteur Antoine Delvig. Repéré par le célèbre label Spinin Records en 2015, Antoine a depuis enchaîné les signatures sur de gros labels comme Axton Records ou encore Protocol. Plus récemment, il vient de sortir Last Night A DJ Saved My Life sur le label de Tiësto Musical Freedom. Régulièrement booké sur d'importants événements et festivals, il nous parlera de son actualité et surtout de sa façon de travailler. Nous vous aiderons ensuite à identifier les clés pour pouvoir se démarquer aujourd'hui en tant qu'artiste de musique électronique, en particulier avec la recherche d'une identité sonore unique et personnelle. Nous évoquerons aussi, comme à chaque fois, une technique de production, cette fois-ci celle du layering, utilisée par de très nombreux producteurs depuis une dizaine d'années et consistant à superposer des couches sonores similaires de manière à grossir le son. Une telle technique est-elle toujours d'actualité? Comment a-t-elle et doit-on la faire évoluer? Nous vous donnerons quelques éléments de réponse. Enfin, nous terminerons par un sujet sur lequel vous nous questionnez beaucoup. Peut-on produire et mixer un morceau entièrement au casque sans utiliser d'enceinte? Voici pour un aperçu du programme de ce nouvel épisode. Let's Prod, c'est parti.
Let's Prod.
Pour débuter cet épisode, nous accueillons le DJ producteur Antoine Delvig. Bonjour Antoine, comment vas-tu?
Ça va nickel et toi?
Impeccable, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir quand tu as commencé la production et le DJing, et surtout dans quel ordre.
Alors moi j'ai commencé par la production, bien avant de devenir DJ réellement. Alors ça remonte 2007, si je ne dis pas de bêtises, 2007-2008, j'ai dû ouvrir Eiffel à l'époque. Je devais avoir 14-15 ans, fin de collège, un truc comme ça. Et pendant très longtemps, j'ai juste fait ça, mais en mode comme si on jouait à un jeu vidéo. Donc je faisais des trucs vraiment pas top. Jusqu'à arriver en 2013, quand même bien presque 5 ans, où en fait j'ai fait un son sans faire exprès, et en fait, enfin sans faire exprès, façon de parler, et en fait il a été joué par Led Bad Luck à Tomorrowland, donc un petit peu choqué sur le moment en fait, parce que j'avais jamais rien fait, enfin j'avais jamais signé de son ou rien, et c'est le premier vrai support live quoi. À ce moment-là, vraiment je me suis dit, ah il y a peut-être un truc à faire. Si un DJ comme ça joue mon track sur, enfin je veux dire à Tomorrowland, c'est quand même assez gros. Donc je me suis mis plus à bosser intelligemment et en matant masse de tutos, de trucs comme ça. Entre-temps, j'étais passé sur Ableton, live. Et ouais, 2015, c'est là où vraiment j'ai commencé à sortir pas mal de sons, dont sur le label de Gregory Glassman, Guru, qui était à l'époque très très gros label français. Et en été 2015, j'ai gagné un remix contest pour Oliver Aldens sur Spinin. Et là, à partir de là, bah forcément, il y a beaucoup plus de contacts et tout. Et forcément, c'est là qu'on est appelé à sortir plus de sons, parce que forcément, c'est plus facile. Et c'est là que j'ai commencé à faire, en gros, mes premières dates.
Et comment tu as réussi à contacter Led Bad Luck?
Alors, en fait, j'avais déjà quelques connexions, en gros, entre producteurs. Il y avait un gars qui me fait « Ouais, je connais bien Led Bad Luck. » Et on avait déjà parlé de faire des collabs ensemble. Et j'avais vraiment une bonne base du morceau qui était fait. Et le mec qui fait ça, donc on l'a fini. Il l'a envoyé à Led Bad Luck, mais forcément, avec pas trop de réponses. En plus, 2013, pas comme maintenant avec tous les réseaux. 2013, il y avait juste Facebook. Enfin, donc voilà, et il y avait moins de live postés, donc il y avait pas trop de nouvelles. Et je l'ai su vraiment en regardant le live, enfin le replay du live de Tomorrowland le lendemain. Et en fait, c'est lui qui l'a envoyé, mais même lui le savait pas. Et en fait, après Tomorrowland, il l'a écrit en mode en gros, j'ai joué le track, je le kiffe, j'ai envie de le signer sur mon label. Donc c'était le sous-label de Mixmash Records. Et le sous-label, c'était One to Watch. Et j'ai sorti un EP là-bas, donc 3-4 mois après, le track que lui avait joué était sorti dessus.
Et d'un point de vue technique, comment démarres-tu en général la production de tes morceaux? Par le drop, le break?
Alors, non, moi je commence, ça change à chaque fois. Ça va être plus un groove en fait. Je vais plutôt rechercher soit des samples, soit des loops, ou soit moi je vais mettre un drum rack dans Ableton et je vais faire moi-même des loops. Et en fait, généralement, si je pars du principe que j'ai pas d'idée, rien, parce que généralement, j'ai la facilité d'avoir des idées dans ma tête de ce que je veux mettre dedans, ce qui fait que je sais déjà où je veux aller. Mais si vraiment j'ai rien, c'est vraiment point mort, mais je veux quand même produire, je vais juste tester de faire des loops, et en fait au fur et à mesure ça va m'amener une idée ou un truc, je vais essayer de tourner des synthés, des trucs, des fois pendant 3-4 heures à faire vraiment des trucs nuls, et en fait au bout d'un moment je vais avoir le petit truc qui va me faire « Ah ça j'aime bien ce groove là » ou « J'aime bien ce son là » et ça va directement m'inspirer, alors je sais pas par quel procédé, mais ça va directement m'inspirer pour m'amener sur un truc. Et après, en gros, j'arrive à faire un track. Mais c'est vrai que j'ai pas de... En gros, de début, je commence par un break, je commence par un drop.
Ok. Et au niveau des synthés, est-ce que tu possèdes du matériel hardware ou tu es 100% in the box ?
100% digital. J'ai envie de passer à du hardware, mais plus pour du mix et du mastering. Je suis vraiment sérum à fond. Après, j'aime bien Silent, mais je le trouve un peu... Il sonne un peu plus carton maintenant. Si tu mets vraiment juste... faut vraiment bien le tweaker. Mais je m'en sers un peu plus pour tout ce qui est synthé, pad ou tous les trucs où je vais plutôt caler des accords. J'aime bien prendre Silent. Et sinon, c'est vraiment Serum, parce qu'on peut quasiment tout faire avec. Et sinon, j'aime bien trouver des petits trucs que personne n'utilise, comme par exemple sur mon track Disciple, qui est sorti sur Axtone. C'est une émulation de TB-303, donc la machine qui fait de l'acide. Et en gros, c'est une émulation, c'est audio réalisme, mais je crois que ça s'appelle ABL2, un truc comme ça. Et il est super bien, en fait c'est un truc que personne n'utilise, parce que des fois on peut refaire de l'acide même dans Silent, même dans Serum. Et là c'est vraiment une émulation qui émule la machine. Donc si je devais peut-être m'acheter une seule machine hardware, ce serait ce truc acide. Pour l'avoir en vrai, une vraie en gros TB-303, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas dans les projets là tout de suite, mais peut-être que dans le futur, si je découvre un peu mieux le monde hardware de tout ce qui est les Moog, les trucs comme ça, peut-être que j'irai dessus, mais c'est vrai que je suis plus la génération qui vient du 100% digital, donc...
Peux-tu nous donner un plugin d'effet indispensable pour toi que l'on retrouve dans l'essentiel de tes productions ?
Alors, plus récemment, la plupart dans mes tracks là, alors c'est un vieux plugin, c'est le Camel Crush de Camel Audio. Bientôt, je l'utilise toujours, parce qu'en fait, il sature tellement bien, et en fait, j'ai bien réussi à comprendre comment il marchait, et en fait, ouais, quasiment sur toutes mes basses, j'aime bien le mettre en fait. Mais sinon, en fait, j'en utilise tellement, enfin, je sais pas, toute la suite Fab Filter, je sais que je pourrais pas m'en passer. Le Pro Q3, c'est impossible de faire autrement, même s'il y en a plein d'autres maintenant d'equalizer, c'est vraiment celui qui va vite, simple, et tu peux tout faire avec. Sinon après, j'aurais du mal à me passer de mes UAD, j'ai quand même beaucoup d'UAD, donc là faut la carte son, et plus moi j'ai un satellite en plus, parce que plus tu mets de plugins, plus il faut des processeurs UAD. Moi je suis vraiment un fanat de plugins, ce qui fait que j'en ai tellement, que, en gros, je pourrais pas dire vraiment un seul, mais voilà, à part pour c'est plus un son synthé, ça serait le Camel Crush. Je crois que je l'ai mis sur tous mes derniers tracks qui sont sortis. Il est dans les basses. Il est dans le truc qui va saturer la basse, mais des fois sans trop faire crusher vraiment saturer, ça va juste amener de la rondeur et ça va grossir le son.
Quel conseil donnerais-tu aux jeunes producteurs qui nous écoutent et qui voudraient signer sur des labels importants ?
Alors, ça serait de faire un maximum de sons, déjà. Pas juste faire un son et en gros jamais le sortir et attendre qu'il soit parfait. Ça marche jamais. Faut le faire, faut le sortir, même si on le sort sans label, même si on le sort sur un petit label, il faut le finir parce que le track d'après, tu vas comprendre tes erreurs du premier. Et en fait, il y a trop de producteurs, que je vois même surtout en France, qui en gros vont dire non mais là le mix il est pas parfait, non là le truc est pas parfait, non là le clap est pas parfait, en gros il est pas parfait. C'est généralement les mecs qui donnent des conseils à tout le monde mais qui ont jamais sorti de son. C'est une petite parenthèse.
Quelle place occupent les réseaux sociaux dans ta communication ? Est-ce que c'est très important pour toi ou c'est finalement qu'une présence ?
Alors, c'est un entre-deux, parce que je n'aime pas les réseaux, dans le sens où j'aime pas poster, par exemple, des trucs sur Instagram. Je suis pas méga présent, parce que, en fait, j'aime pas poster, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que moi, je suis toujours en studio toute la journée, je fais toujours la même chose. J'aime pas, je vais pas m'inventer une vie, faire des faux trucs, parler, machin. C'est pas moi, c'est pas ce que j'aime. Alors, malheureusement, c'est ce qui marche de plus en plus, enfin, c'est ce qui amène, parce que forcément, même les labels regardent aussi les réseaux pour savoir si la personne a déjà quelque chose, a déjà un CV ou a déjà une communauté. Je peux pas dire que c'est pas important. C'est impossible, c'est un très gros impact. Il y a même des DJ qui sont... moi, on m'a toujours dit, en gros, t'as beau avoir un bon son plus un bon marketing. Des fois, juste d'avoir un bon marketing et sans le bon son, ça suffit. Et c'est tellement vrai, ça veut rien dire, parce que il y a plein de DJ qui sont juste bons sur les réseaux, mais ils n'ont jamais fait de son, ils n'ont jamais fait rien. C'est juste qu'ils sont bons dans la com, ils se font connaître. Mais oui, c'est un truc qui est quand même important de nos jours.
Travailles-tu seul ou il y a une équipe qui t'entoure? As-tu par exemple un manager? Et si oui, depuis quand?
Alors, j'ai un management depuis toujours. En fait, un an après que en gros, les Bad Luck aient joué mon son, j'ai rencontré quelqu'un qui lui commençait aussi dans le management. Et en fait, on s'est lié d'affinité. Et en gros, on s'aidait mutuellement. Et on est monté ensemble. Et on bosse toujours ensemble. Et c'est grâce à lui si j'ai pu signer sur des gros labels et tout. Parce que moi, j'écris jamais au label. Je fais rien de ça. C'est que lui qui gère parce qu'il est très bon dedans. Moi, j'aime bien dire spammer intelligemment. C'est-à-dire, il sait exactement quand relancer, quand les écrire en étant poli, sans trop leur écrire tous les jours, etc. Et ce qui fait que maintenant, bah, en gros, tous les labels, on a les contacts de quasiment tous les labels. Mais forcément, ça a pris du temps. Maintenant, ça va faire peut-être 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Donc forcément, ça monte. Et c'était vraiment petit à petit. En fait, j'ai jamais changé de management. J'ai eu quelques agences de booking entre-temps qui sont plus ou moins bien passées. Donc pour le moment, je suis plus en mode... en plus, parfait dans la transition, là, en gros, du Covid. De tout remettre ça à zéro et on est en train de voir pour vraiment monter un truc mieux. Sinon, en édition, c'est Maud Brooke et en gros, c'est mon éditrice, c'est mon publishing. Avant, j'étais chez Spinin, chez Musical Star. C'est pas super bien passé parce que forcément, ils parlent que anglais, la SACEM parle que français, ils avaient du mal à se comprendre dans les contrats d'édition, les machins et tout. Quand j'ai fini mon contrat avec Spinin, je suis resté quelques mois où en gros, les tracks que je sortais étaient en édition. Directement dans les labels qui avaient déjà des maisons d'édition. Et après, Maud, en gros, m'a proposé de me prendre pour tout ce qui est édition des morceaux. Et j'en suis super content parce qu'en fait, j'ai rien à faire. Je fais un morceau, je lui envoie le MP3, les compositeurs. Si je suis solo, que moi. Et c'est elle qui fait tous les dépôts SACEM, qui gère tous les droits, tous les trucs. Et voilà.
Comment se répartissent tes revenus? Est-ce principalement tes cachets pour tes performances de DJ qui te rémunèrent? Ou peut-être des prestations pour d'autres producteurs?
Alors moi, depuis 2-3 ans, je bosse beaucoup pour d'autres. Pour le coup, c'est moi, je me compte entre guillemets que ça en termes de revenus, entre guillemets fixes, comme un salaire, entre guillemets. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça et de vivre de ça maintenant, et de me sortir un salaire tout à fait normal avec ça. Et je taffe beaucoup en studio, et en fait, j'ai pu me faire entre guillemets un vrai revenu stable en faisant des mixages, des masterings, des additional prod.
Et tes titres génèrent du droit d'auteur?
Bien sûr, ça génère des droits d'auteur et des royalties, mais pareil, pas assez pour vivre. En fait, je veux pas me baser sur ça parce que même si là, on n'aurait jamais pu en penser une crise comme ça, par exemple, que tous les DJ n'aient plus de dates, mais même avant ça, moi, je me suis toujours dit que c'est des dates pour un DJ producteur qui est vraiment juste guest, avec un son quand même assez particulier, ou voilà, qui est très EDM. Je veux dire, je joue pas de l'urbain, je fais pas du rap, je suis pas méga connu. Ce qui fait que pour moi, ça a jamais été extrêmement stable, et je me suis vite dit, il faut vraiment que je me fasse un bagage qui reste dans ma lignée, que je puisse continuer mon nom d'artiste comme si de rien n'était, comme je fais en fait, enfin, que je continue à sortir des sons, mais que je sois pas obligé d'aller travailler dans un truc que j'aime pas, ou que je sois pas obligé d'aller... ou d'arrêter parce que voilà, il faut vivre et il faut quand même gagner de l'argent. Et moi, j'ai la chance de vivre de la musique. Je vis pas, entre guillemets, d'Antoine Delville, mais je vis de la musique.
Concernant la crise actuelle due au Covid, quel est ton point de vue sur le futur de l'industrie musicale?
Je pense que ça va repartir. J'en sais rien. On voit que ça commence à repartir. Là, il y a eu, hier, juste avant qu'on enregistre, hier, il y a Ultra Taiwan qui a été annoncé en fin novembre. Et c'est pas du tout la même partie que nous en France, mais nous en France où les bars sont encore fermés et là-bas les festivals comme Ultra commencent à rouvrir, il y a quand même c'est quand même un assez gros écart. Mais non, moi je pense que juste ça va peut-être plus changer pour tout ce qui est les gens qui bossent à la maison. Alors ça c'est plus général, mais surtout même dans la musique, il y a de plus en plus de gens qui bossaient dans des gros studios où en fait maintenant on font plus de home studio. Et je pense que les gens qui bossent comme ça en fait de chez eux, en fait, ils se sont rendus compte qu'on peut très bien bosser chez soi si on a une pièce adaptée, un traitement ou même des enceintes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont continuer comme ça. Et surtout dans la musique, en fait, à travailler de chez eux. Parce qu'en fait, on peut faire de la musique de partout, tout simplement. Et je pense que plus sur ce point de vue-là, ça peut changer. Je pense que les gens vont plus penser à avoir un revenu à côté. Bien sûr, dans la musique, hein, je ne dis pas de faire autre chose, mais de multiplier en gros les business pour être sûr que même si ton activité tombe, tu es quand même autre chose. Ça peut être, je connais plein de DJ qui se mettent à faire des sample packs. Ça aide les producteurs, eux, ça leur permet de gagner de l'argent. Il y a plein de trucs dans la musique où on a besoin de trucs alternatifs comme ça, où on peut créer, en gros, où on peut gagner de l'argent pour vivre. Moi, je sais que je fais ça parce que si un jour, j'ai plus envie d'être DJ en live ou être même produire pour moi, parce que je sais pas, j'ai plus envie ou je suis trop vieux, parce qu'il faut aussi être conscient de ça, que à part les Guetta, les Axwell, les Don Diablo, on va pas mixer jusqu'à 50 ans. C'est quasiment impossible. Faut être vraiment des grosses légendes, à mon sens, pour tenir aussi longtemps dans ce métier. Donc en gros, de se préparer des bagages, mais autant se préparer des bagages avec, entre guillemets, avec des habits qu'on aime bien que des habits qu'on n'aime pas. Là, en gros, c'est à peu près ce que je veux dire, c'est à peu près ça.
On a coutume de conclure nos interviews par une astuce de production ou de mixage. Est-ce que tu aurais un tips à partager avec nos auditeurs passionnés ?
Ouais, alors ça peut être paradoxal par rapport à mon métier, mais c'est à tous les producteurs, c'est de s'en foutre royalement du mix et du master. Il y a trop de producteurs, je reçois des démos, ils disent, en gros ils envoient la prod, ils font « mais t'inquiète pas, c'est pas mixé, masterisé ». Il y a tout le monde qui dit ça. En gros, pour se dédouaner en mode « ouais, mais ça sonne pas super ». En fait, quand on est producteur, on s'en fout que ça sonne ou pas, en fait. Parce qu'en fait, l'important, c'est la musique en elle-même, que ce soit la mélodie, que ce soit le groove, le choix des samples. Et rien que ça, en soi, si les samples sont bons, quand je dis sample, ouais, c'est le choix des drums, etc. Le choix du synthé, la construction, l'idée, le groove, la mélodie, c'est 85% du taf. Les 15% qui restent, c'est du mixage et du mastering. Si le track est bon, on te dira « putain, le track est ouf, mais essaye de revoir ton mix sur ce point-là et de faire un bon master, etc. » Le seul conseil que j'ai, c'est vraiment de s'en foutre. Faut faire du son, c'est tout.
Merci Antoine Delvig pour ces réponses précises qui, nous l'espérons, vous auront donné un point de vue éclairé sur le métier de DJ producteur. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré à l'identité sonore. Les DJ producteurs possèdent tous ce qu'on appelle une signature sonore, une identité clairement reconnaissable et qui les différencie des autres artistes. On peut par exemple citer Kashmir, qui développe une identité autour de sonorités indiennes et électroniques, Skrillex, initiateur de la dubstep, ou encore Flume, et l'explosion du phénomène Future Bass. La liste est longue. Ces producteurs ont chacun apporté un son personnel et par définition unique, et c'est bien par cette approche artistique qu'ils ont réussi à se différencier, devenant alors les leaders de leurs courants musicaux respectifs, entraînant derrière eux de nombreux autres producteurs, essayant de reproduire leurs univers, les copier en quelque sorte. Ces courants existent dans toutes les formes d'art. Le cubisme et l'impressionnisme en peinture, la nouvelle vague française dans le cinéma, et j'en passe. Pour réellement trouver un public et arriver à le fidéliser, il paraît donc important d'être leader et non suiveur. Mais concrètement, comment y arriver ? Quand on les interroge, les meilleurs producteurs ont tous la même vision, ne copier personne. C'est sans doute le facteur le plus important pour trouver sa propre identité. Évidemment, un créateur peut être inspiré par un ou plusieurs des artistes qu'il apprécie. Skrillex a par exemple beaucoup été influencé par les sonorités très saturées du groupe Justice et de producteurs underground comme Noisia. On peut considérer qu'il a incorporé ses influences dans son art pour créer son propre univers, un son unique. D'un point de vue technique, quels sont les éléments à travailler pour créer une identité sonore ? En premier lieu, les sons de drums. Les kicks et snares définissent bien souvent les différents styles musicaux. Un snare dubstep n'a rien à voir par exemple avec un snare funk. Un kick hard style n'a rien à voir avec un kick deep house, etc. C'est donc à vous, en tant que producteur, de trouver les sons de drums de demain. Ensuite, il est possible d'élaborer une identité, un univers autour de son instrument réel ou synthétique. Les synthétiseurs à table d'onde ont ouvert des possibilités infinies de création, tandis que de nombreux effets permettent de modifier la texture d'instruments réels. Des sons de guitare, de voix ou encore de violon peuvent être aujourd'hui totalement transformés avec les outils modernes. Enfin, nous vivons toujours dans le monde du sampling, échantillonnage en français. Il est ainsi possible, et entre nous assez courant, de récupérer des extraits sonores plus ou moins longs issus de productions anciennes à succès ou inconnues du grand public dans le but de les remettre au goût du jour en y appliquant plus ou moins de modifications de transformation. Un seul mot d'ordre, innover. N'hésitez pas à expérimenter, à créer de la matière sonore et sait-on jamais, vous trouverez peut-être un nouveau son à la fois unique et captivant. Place maintenant au layering. Très connu de la plupart des producteurs, le layering consiste à superposer des couches sonores similaires pour grossir le son. La technique ne date pas d'hier. Les orchestres symphoniques utilisent par exemple le layering depuis toujours. Les cordes peuvent jouer ensemble des mélodies dans le but d'augmenter la puissance sonore ressentie. Cette technique plutôt efficace a été introduite dès le début des années 2000 dans la musique de variété, notamment suite à la parution d'un livre intitulé « The Art of Layering ». Elle a commencé à être réalisée sur des sons de drums. En utilisant cette technique, le producteur Timbaland a changé le son du hip-hop des années 2000 en layerant ses sons de clap et snare. Le layering s'est ensuite étendu à la musique électronique, en particulier sur les sons de synthétiseurs, aboutissant à des styles comme la big room ou encore le hardstyle. Jusqu'à récemment, le layering était partout, à tous les niveaux de production. Mais cette technique est-elle toujours d'actualité ? En réalité, beaucoup moins qu'avant. Le layering a petit à petit cédé sa place aux techniques de saturation. Plutôt que de complexifier le son en rajoutant des couches et des couches, certains producteurs ont préféré saturer directement les sons et ainsi les enrichir en harmonique. Aujourd'hui, le layering se réalise plutôt sur un choix restreint d'instruments. Par exemple, une rythmique composée de plusieurs claps layerés et d'un kick saturé. L'utilisation de la saturation au détriment du layering est très présente en trap. Un kick, un snare, un clap, une boucle d'instrument, et c'est tout. Minimaliste donc, mais efficace. Le layering pourrait-il disparaître complètement au profit de la saturation dans les productions à venir ? Nous suivrons ça de près.
Let's Prod.
Dernier sujet du jour, le casque de monitoring. De nos jours, l'essentiel de la musique est écouté sur des supports comme des écouteurs, des casques audio, voire des petites enceintes Bluetooth. Naturellement, nous pouvons nous demander si un morceau de musique peut être créé, mixé et masterisé entièrement au casque, sans enceinte. Quand on sait que Skrillex a obtenu un Grammy Awards récompensant une œuvre musicale produite avec juste un ordinateur et un casque Beats, la réponse est oui. En revanche, nous vous conseillons l'utilisation d'un casque de type ouvert, comme le modèle DT990 de Beyer Dynamics ou encore le HD650 de chez Sennheiser. Lorsqu'un casque est de type ouvert, le haut-parleur diffuse le son vers l'oreille de l'auditeur mais aussi vers l'extérieur, la pièce dans laquelle il se trouve. Cette spécificité technique permet au haut-parleur de fonctionner sans contrainte et au plus près de sa courbe de réponse naturelle. En revanche, la structure ouverte d'un casque laisse entendre tous les bruits environnants, avec les inconvénients que cela peut avoir. L'utilisation d'un casque ouvert est donc difficilement possible en dehors d'un environnement sonore calme et maîtrisé. Impossible, par exemple, d'utiliser ce type de casque en déplacement. L'un des avantages de travailler au casque est de limiter considérablement le budget. Il vous évite notamment d'investir dans l'acoustique souvent coûteuse d'un studio. Côté inconvénient, il est vrai que le travail complet au casque ne permet pas d'avoir une parfaite perception de l'espace stéréo. Il devient alors quelquefois difficile de paramétrer des effets comme des réverbes ou des délais. Autre inconvénient, la tendance à mal mixer les basses fréquences. Même si vous n'utilisez qu'un casque pour toutes vos étapes de création et de finalisation de vos projets musicaux, il semble nécessaire de vous référer à différents systèmes d'écoute pour vérifier vos réglages et traitements. Très récemment, la marque Slate Digital a commercialisé un casque accompagné d'un logiciel qui permet de simuler divers environnements comme un studio professionnel, l'acoustique d'une voiture ou encore des écouteurs AirPods. Avec le Slate VSX, vous n'aurez peut-être plus besoin d'enceinte pour référencer vos morceaux. Révolutionnaire. Quand on voit ce type d'outils, on peut se dire que le futur nous permettra peut-être d'être totalement nomade et autonome pour produire en toute liberté, sans enceinte, voire même sans studio. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous et partagez le podcast autour de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, let's prod.
Let's prod. Le podcast de la production musicale. Let's prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.